terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle lui.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever.
Allez, on est toujours en direct. C'est notre journal en ce mercredi 8 mars et on retrouve voilà une voix qui nous est familière. Michel, bonjour. Bienvenue chez vous, hein, Michel.
Bonjour, Joël.
Voilà, alors tout à l'heure, j'ai fait une allusion hein, parce que là, pour la photo, on comprendra. On est filmé aujourd'hui. Hein. Je fais un petit coucou à Nicolas, Grégory et Simon. Voilà, donc on est filmé aujourd'hui. Ça, je dis pour nos auditeurs, ça va pas changer leur vie à eux. Pour nous aussi, c'est un grand moment. Alors Michel, voilà, là on est dans les temps. On a pu avoir en premier plateau. Voilà, mais comme vous avez changé, donc tout va bien. Peut-être que commencer par la chronique et on redira s'il y a des compléments d'infos pour les prochaines chroniques. Alors pour vous lancer, ben voilà, vous allez dans un premier temps nous parler de d'actu et des spectacles du ciel, hein, je reprends vos termes, voilà, de France en février.
Voilà, la dernière fois, nous avions parlé des animations prévues pour les Nuits des étoiles d'hiver, organisées par l'AFA, l'Association française d'astronomie, du 9 au 12 février, pour permettre au public de découvrir les beautés du ciel hivernal avec l'aide des clubs d'astronomie et leurs télescopes. Je n'ai pas encore vu de bilan global, mais je crois pouvoir dire qu'elles ont été un succès, notamment pour nos amis d'AG33, Astronomie Gironde 33, qui ont accueilli un public nombreux aussi bien le vendredi soir, le 10 février, sur la pelouse du stade de Villandreau, que le samedi, sur son site habituel, du mémorial de la ferme de Richemont à Saucat. Une petite centaine de personnes pour chaque soirée, selon les estimations de leur présidente, Corinne, ce qui est déjà pas mal pour des nuits hivernales plutôt frisquettes. Comme prévu, les participants ont pu observer la petite visiteuse de ce début d'année, la comète C2023E3ZTF, pas tout à fait assez brillante pour être visible à l'œil nu début février, mais facile à voir dans une simple paire de jumelles et bien plus belle au télescope. En profitant de la météo favorable du début de mois, j'ai moi-même essayé de la photographier, comme de nombreux amateurs, jusqu'à la veille de mon départ aux Antilles, dont je reparlerai un peu plus tard à propos de la vision du ciel selon la latitude. Mais le ciel nous a fait d'autres surprises en février, notamment la chute d'un météore en Normandie le 13, un peu avant l'aube. Comme il avait été détecté quelques heures auparavant par un astronome hongrois, dont je ne me risquerai pas à écorcher le nom, la trajectoire de 2023 CX1 avait pu être anticipée, ce qui a permis une observation plus précise de l'arrivée de cet objet, estimé à 1 mètre de diamètre et environ 1,5 tonne, qui a illuminé le ciel du nord de la France, de Paris à Rouen, en se désintégrant dans un grand flash lumineux. Avec les nombreuses photos et vidéos de l'événement, notamment du système français de surveillance du ciel Fripon, la zone de recherche d'éventuels fragments ayant atteint le sol a pu être réduite à quelques champs dans la région de Dieppe. Le périmètre a été inspecté minutieusement par des volontaires dans le cadre du programme associé Vigiciel, dont Loïs Leblanc et ses parents passionnés d'astronomie qui ont parcouru 300 km pour rejoindre le site. Et la jeune étudiante de 18 ans a eu ainsi la chance de découvrir une météorite d'environ 100 grammes dans un champ de la commune de Saint-Pierre-le-Vigier. Selon le professeur Sylvain Boulet de l'Université de Paris-Saclay et cofondateur du programme Fripon Vigiciel, il s'agit d'une découverte historique car c'est seulement la troisième fois qu'on découvre une météorite fraîchement tombée, issue d'un astéroïde identifié en amont dans l'espace, après celle de 2008 au Soudan et 2018 en Afrique du Sud. Cela permettra d'étudier une roche pratiquement intacte, pas contaminée ni altérée par des années de séjour dans l'environnement terrestre, tout en ayant les éléments de trajectoire permettant d'évaluer sa provenance dans le système solaire. Le chercheur ne désespère pas de trouver d'autres fragments et dans la région où les recherches se poursuivent. Et ce n'était pas la seule surprise dans le ciel de France en ce mois de février, car comme il avait été annoncé dans les médias la veille, des aurores boréales ont pu être observées dans le nord de la France les 26 et 27 février dernier jusqu'en Bretagne.
Alors Michel, comment peut-on voir des aurores boréales en France alors que c'est un phénomène du ciel polaire? Et deuxième question, et comment a-t-on pu le prévoir justement?
Alors pour le comprendre, il faut rappeler que l'origine des aurores boréales est australe, car il y a symétriquement aussi dans les régions proches du pôle sud, c'est l'activité solaire. En plus de sa lumière généreuse, notre étoile nous envoie aussi des particules, ce qu'on appelle le vent solaire. Si nos auditeurs se souviennent de notre dernière chronique à propos des comètes, c'est lui qui pousse leur queue de gaz et de poussière, les orientant toujours à l'opposé du soleil dans le ciel. L'activité solaire est loin d'être tranquille et régulière, et l'on pourrait comparer la surface du soleil à une marmite bouillonnante où viennent sans arrêt éclater des bulles de plasma, éjectant des bouffées plus ou moins importantes dans l'espace, et parfois dans la direction de la Terre. Ces EMC, comme on les appelle, éjections de masse coronale, sont plus ou moins nombreuses et violentes selon un cycle d'activité d'environ 11 ans, et nous approchons du prochain pic prévu en 2025. Donc le Soleil est déjà bien actif en ce moment, et cela explique ce qui s'est passé dans le ciel français. Quand les particules solaires rencontrent la Terre, la plus grande partie est déviée par le champ magnétique de notre planète qui nous protège. Mais une petite part parvient à s'approcher plus dans les régions polaires où ce champ forme comme une sorte d'entonnoir près des pôles magnétiques nord et sud. Excitant les molécules de gaz composant notre atmosphère, principalement l'oxygène et l'azote, elles produisent les émissions de lumière qu'on appelle les aurores et qui se produisent à très haute altitude, à plus de 80 km. Elles sont observables le long d'une sorte de couronne aurorale qui entoure les pôles magnétiques, en Europe, généralement au nord de la Norvège et de la Suède et en Islande. Mais quand le Soleil produit une éjection particulièrement violente, cette couronne s'élargit et peut atteindre des latitudes plus basses, comme le nord de la France. Cela peut même descendre exceptionnellement à des latitudes bien plus basses, même tropicales, comme en 1859 où des aurores ont été observées en Honolulu et Singapour en 1909. Et comme la collision intervient dans les 2-3 jours suivant l'éruption solaire, il est facile de les prévoir, car notre étoile est surveillée en permanence par des télescopes spatiaux, notamment SOHO et SDO. Par contre, il ne faut pas s'attendre dans nos régions à voir les belles draperies vertes ondulantes qu'on peut admirer dans les zones polaires. En effet, les couleurs des aurores varient en fonction de l'altitude où elles se produisent, ce qui est lié à la proportion d'azote et d'oxygène de l'atmosphère et à l'énergie des particules solaires qui les frappent. Le vert est émis par l'oxygène atomique à relativement basse altitude, moins de 150 km, alors qu'il émet du rouge au-dessus. De plus, comme nos yeux sont plus sensibles en vision nocturne au vert qu'au rouge, ce sont les draperies vertes qui sont les plus évidentes dans le ciel, le rouge nous étant plus difficile à discerner, ce qui peut être trompeur. Étant allé observer des aurores lors du précédent maximum d'activité solaire, en 2013 en Norvège et 2015 en Islande, je me suis aperçu sur mes photos qu'un ciel paraissant décevant à l'œil nu, car les rubans verts étaient assez pauvres, était en réalité beaucoup plus lumineux dans le rouge alors qu'on ne le percevait pratiquement pas. Sous nos latitudes, les aurores se produisant plus haut dans l'atmosphère, c'est plutôt un halo rougeâtre qui est observable, donc assez difficile à percevoir visuellement, mais bien plus évident sur les nombreuses photos prises par des amateurs. Et pour finir avec les spectacles visibles dans le ciel en février, je terminerai par un peut-être moins spectaculaire et bien prévisible, constitué par le balai, si je peux dire, des planètes Vénus et Jupiter, les deux plus brillantes visibles dans le ciel. Vénus, la plus éclatante des deux, se déplaçant nettement plus vite, s'est rapproché jour après jour de Jupiter qui la dominait au milieu du mois dans le ciel du soir, jusqu'à la croiser le 1er mars dans une conjonction très serrée, et c'est maintenant elle qui surplombe Jupiter dans le ciel et s'en écarte progressivement.
Alors après ces observations du ciel, peut-être quelques nouvelles des missions spatiales?
La dernière fois, j'avais parlé de l'assemblage par SpaceX de la plus grande fusée du monde à ce jour, constituée par son gros vaisseau réutilisable Starship surmontant son premier étage Super Heavy, un ensemble de 120 mètres de haut. Et la réussite le 23 janvier du test appelé Wet Dress Rehearsal, en français répétition générale mouillée, car on remplit les réservoirs, un compte à rebours fictif qui ne s'arrête que quelques dizaines de secondes avant l'allumage des moteurs. L'étape suivante consistait à démonter le Starship pour un test statique, c'est-à-dire au sol, des 33 moteurs Raptor du Super Heavy. Il a eu lieu dès le lendemain de ma chronique, le 9 février, et n'a réussi que sur 31 moteurs, un ne s'étant pas allumé et un autre ayant dû être éteint prématurément. Cet essai est néanmoins considéré comme une réussite et ouvre la voie à un premier lancement de l'ensemble Super Heavy Starship qu'on attend toujours pour ce mois de mars. Il ne manque qu'une dernière formalité, l'obtention d'une licence de vol, de vol auprès de l'administration américaine régulant le trafic aérien, la FAA, Federal Aviation Administration. Même s'il y a déjà eu des frictions avec l'hyperactif Elon Musk qui s'exaspère des lenteurs administratives, cela ne devrait pas poser de problème, car SpaceX a satisfait toutes les exigences techniques de l'agence, notamment les ajustements demandés à l'issue de l'étude d'impact environnemental en juin dernier. Je rappelle que ce lanceur est nécessaire dans le cadre du programme lunaire Artemis de la NASA, le Super Heavy pour envoyer les éléments de la future station spatiale lunaire et le Starship comme navette entre cette Lunar Gateway et la surface de la Lune. De son côté, SpaceX projette de l'utiliser pour ses propres missions lunaires en attendant d'hypothétiques missions humaines à destination de Mars.
Et du côté de la Station Spatiale Internationale, toujours des problèmes avec les vaisseaux russes, Michel ?
Effectivement, j'avais parlé du problème de la capsule Soyouz MS-22 arrimée à l'ISS qui avait perdu dans la nuit du 14 au 15 décembre une grande quantité de fluide de son système de refroidissement suite à l'impact d'une micrométéorite ou peut-être d'un débris spatial ayant perforé le radiateur extérieur. En raison du risque d'un échauffement trop élevé de l'habitacle lors de la rentrée atmosphérique, l'agence spatiale russe Roscosmos avait décidé qu'il reviendrait sans équipage sur Terre, en principe courant mars. Et les trois astronautes, deux Russes et un Américain, qu'il devait transporter, reviendraient à bord du MS-23, envoyé à vide vers la station le 24 février, mais seulement en septembre, ce qui prolonge leur séjour à bord de 6 mois. Les problèmes survenant souvent en série, le 11 février, les ingénieurs russes ont constaté aussi une baisse de pression dans le circuit de refroidissement du vaisseau cargo Progress, qui avait rejoint l'ISS en octobre dernier pour la ravitailler et devait être largué plein de déchets pour se consumer dans l'atmosphère. Au lieu de procéder à ce largage le 17 février comme prévu, il a été désamarré de la station pour procéder à son inspection visuelle afin d'essayer de déterminer la cause de la fuite avant de l'envoyer dans l'atmosphère le lendemain. Ces incidents sur les vaisseaux russes ont peu impacté la routine, si je peux dire, de l'équipage de l'ISS, rejoint vendredi dernier 3 mars par les 4 astronautes de la mission Crew 6, ou 6 en anglais, la 6e réalisée avec un vaisseau Crew Dragon de SpaceX lancé par un Falcon 9 depuis Cap Kennedy, la veille, après 2 reports fin février suite à des problèmes techniques. Il s'agit de 2 Américains, d'un Russe, car l'ISS reste le seul domaine où la coopération avec la Russie dans le spatial continue malgré la guerre en Ukraine, et un Émirati, qui effectuera le premier séjour dans l'espace de longue durée pour un Arabe, ses 3 prédécesseurs n'ayant fait que des missions de courte durée, au maximum 8 jours en septembre 2019, déjà pour un Émirati. A noter que 2023 marque une étape cruciale pour les missions spatiales arabes, puisque 2 astronautes saoudiens, dont une femme, le rejoindront dans l'année, et une sonde lunaire des Émirats doit poser un rover sur la Lune fin avril. L'équipage de l'ISS est donc momentanément de 11 astronautes, mais reviendra rapidement aux 7 habituels, puisque les 4 de la mission Crew 5 doivent redescendre sur Terre dans les prochains jours. À propos des missions spatiales humaines, je fais une petite parenthèse culturelle pour signaler la sortie le 15 février dernier du film « L'astronaute » du réalisateur français Nicolas Giraud, qui joue l'un des rôles principaux avec Mathieu Kassovitz. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu, mais il semble que les critiques ne sont pas mauvaises, et si j'en crois l'avis de la revue Ciel et Espace sur son site, cela vaut la peine d'aller voir l'histoire, cette histoire d'un ingénieur aéronautique travaillant chez Ariane Group et rêvant de construire sa propre fusée pour réaliser un vol en orbite autour de la Terre. Cela peut sembler un peu farfelu, mais il faut savoir que cette fiction a pourtant un équivalent dans la réalité, avec le projet Copenhagen Suborbital, un groupe de bénévoles danois qui vise à construire une fusée pour permettre d'envoyer un homme dans l'espace, mais avec une ambition un peu moindre que celle du film, puisqu'il s'agit de réaliser juste un vol suborbital, c'est-à-dire une montée vers la limite de l'espace, à 100 km d'altitude, permettant de rester en apesanteur quelques minutes avant de redescendre, comme les touristes spatiaux du New Shepard de Jeff Bezos ou du Spaceship de Richard Branson. Et pour compléter, dans le domaine des jeux vidéo, qui je l'avoue m'est un peu moins familier, sans doute une question de génération, la sortie le 24 février de la version 2 de Kerbal Space Program du studio Squad, qui, sous le prétexte d'un jeu amusant, avec des cobayes verts prêts à tester les missions que l'on imagine, est un simulateur permettant de se familiariser avec les concepts du vol spatial, en construisant ses propres fusées et en concevant ses trajectoires dans le système solaire, aidé par des tutoriels pour assimiler en pratique les aspects complexes, comme l'optimisation de la masse et du carburant, l'intérêt d'une base de lancement proche de l'équateur, ou la fronde gravitationnelle dont j'ai souvent parlé ici. Sauf erreur de ma part, il fonctionne sur PC, mais une version qu'au sol serait prévue et coûterait dans les 50 euros. Et pour finir, une actualité toute récente, puisqu'elle date d'hier, le premier lancement de la nouvelle fusée H3 de l'agence spatiale japonaise JAXA s'est soldé par un échec. Suite à ce qui semblait être un raté de l'allumage de son deuxième étage, elle a dû être détruite avec sa cargaison, un satellite d'observation de la Terre. Ce lanceur de 63 mètres, d'une capacité de 3 à 6 tonnes vers l'orbite géostationnaire selon les versions, optimisé pour être concurrentiel sur le marché des lancements commerciaux, doit remplacer les actuels lanceurs H2 de la JAXA.
Allez, on est toujours à l'écho des programmes d'Odo Radio. C'est notre journal en ce mercredi 8 mars, toujours avec Michel Favret qui nous présente sa 96e chronique. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie de votre chronique, voilà, avec le thème du mois et le ciel différent selon la latitude.
Alors, c'est mon récent voyage en Guadeloupe, je suis rentré juste lundi, qui m'a inspiré cette chronique, puisque j'ai pu observer là-bas un ciel bien différent de celui de l'Aquitaine. Et même si ce n'est pas nouveau pour moi, cela reste toujours un étonnement de constater l'ampleur de ce changement quand on voyage hors de l'Europe. Pour commencer, on va faire une petite révision de géographie en parlant des longitudes et latitudes, deux concepts qui sont devenus très familiers avec le GPS, un système basé sur les satellites qui permet presque instantanément de connaître sa position sur Terre avec une précision de l'ordre de 10 mètres. C'est sûr qu'il aurait émerveillé les grands navigateurs des 15e et 16e siècles, comme Christophe Colomb, Magellan ou Vasco de Gama, qui s'élançaient sur les océans en ayant peu de moyens de calculer la position de leur navire. Sauf erreur de ma part, car je n'ai pas réussi à retrouver la référence, l'idée de repérer les cartes avec un système de rectangles dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest remonterait à Aristote. En tout cas, on lui attribue la démonstration de la sphéricité de la Terre par certaines observations, comme l'ombre circulaire projetée de la Terre sur la Lune pendant une éclipse de Lune, ou l'apparition de nouvelles étoiles au sud quand on descend en latitude. D'ailleurs, c'est un autre grec de l'Antiquité, Eudoxe de Cnide, qui observe les différences climatiques liées à la latitude. Le mot « climat » provient du grec « clima » avec un « k », signifiant « inclinaison », car avec la latitude change l'inclinaison des rayons du soleil par rapport à l'horizon, qui est en première approximation l'origine des climats. En tout cas, notre système de positionnement repose sur une représentation de la Terre comme une sphère en rotation. La référence étant son axe de rotation qui passe par les pôles nord et sud. À partir de ces deux points, on peut dessiner un grand demi-cercle à la surface de la Terre passant par le lieu où on se trouve. C'est le méridien, mot qui signifie « milieu du jour », car en moyenne, le soleil passe pile sur le méridien à midi. À chaque lieu, son méridien. Pour peu qu'on choisisse un méridien de référence, une première indication de notre position peut être donnée par l'angle que fait le méridien local avec celui de référence, c'est-à-dire la longitude, mesurée de 0 à 180 degrés vers l'ouest ou vers l'est, en précisant le sens ou en notant en négatif quand c'est vers l'est. Au départ, on ne s'accordait pas sur le méridien de référence, et les Français utilisaient celui de Paris, où se trouve l'Observatoire royal fondé par Louis XIV. Alors que les Anglais utilisaient celui de Greenwich, banlieue de Londres où est situé l'Observatoire royal fondé par Charles II d'Angleterre. Finalement, les Français acceptèrent d'utiliser Greenwich pour définir un système mondial unique des longitudes dans le cadre de l'accord conclu lors de la conférence internationale de Washington en 1884. Une entourloupe de nos perfides voisins britanniques qui, en échange, s'étaient engagés à adopter notre système métrique de poids et mesure. Même s'il existe une infinité de méridiens, on a l'habitude de découper le globe terrestre par 24 méridiens, tous les 15 degrés à partir de Greenwich, qui forment comme les quartiers d'une orange. Ce choix est très simple. En un jour de 24 heures, la Terre effectue une rotation sur elle-même par rapport au Soleil. Un tour de 360 degrés en 24 heures, ça fait 15 degrés par heure. Donc ces 24 méridiens représentent le décalage horaire par rapport à Greenwich, les fuseaux horaires. La Guadeloupe étant environ 60 degrés plus à l'ouest que nous, donc en reculant par rapport au sens de rotation de la Terre, il y a 4 heures de moins, du moins du point de vue astronomique, car du point de vue administratif, les heures légales ne suivent pas exactement la limite des méridiens, mais sont définies par pays entiers en suivant leurs frontières, voire dans des ensembles plus grands comme l'Europe, qui a adopté une heure commune avec comme référence le méridien passant vers son milieu, du côté de Prague, et correspondant à UTC plus 1 heure en hiver. UTC, c'est le temps coordonné universel, qui est la dénomination actuelle de l'ancien GMT, Greenwich Mean Time, l'heure de référence du méridien de Greenwich. Donc, entre la métropole qui utilise cet horaire, UTC plus une heure, et la Guadeloupe qui utilise UTC moins 4 heures, il y a 5 heures de décalage. Quand il est midi à Bordeaux, il est 7 heures à Pointe-à-Pitre. Et du point de vue astronomique, un déplacement en longitude sans changer de latitude ne change rien à la vision du ciel, mais seulement à l'horaire où l'on pourra faire une observation. Pour les navigateurs, à partir du moment où on a su construire des chronomètres marins de précision, au milieu du XVIIIe siècle, il devenait assez facile de calculer la longitude en déterminant l'heure où l'on se trouvait, par exemple midi quand le soleil passe au plus haut dans le ciel, ou avec les levers et couchers d'étoiles donnés par des tables astronomiques, et en mesurant l'écart par rapport à l'heure de référence, celle de Greenwich, donnée par le chronomètre embarqué.
Et pour la latitude alors, Michel ?
C'est plus simple car le ciel change avec la latitude qu'on mesure perpendiculairement à la longitude. Et dans ce sens-là, il y a une référence évidente puisqu'il existe un seul grand cercle qui coupe la Terre en deux pile entre les deux pôles, l'équateur. En coupant la Terre parallèlement à l'équateur au lieu où l'on se trouve, cela dessine un cercle à la surface de la Terre, cercle qu'on appelle tout simplement parallèle. La latitude est l'angle que fait le segment reliant le lieu et le centre de la Terre avec le plan de l'équateur. Il est mesuré de 0 degré à l'équateur jusqu'à 90 degrés au pôle, vers le nord ou vers le sud, en précisant le sens ou en notant en négatif quand c'est vers le sud. Il est facile de comprendre comment le ciel varie en fonction de la latitude et donc qu'elle est assez facile à mesurer. Par exemple, si on prend l'étoile polaire ou Polaris, située presque exactement dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre du côté nord. Imaginons avec nos auditeurs que nous serions pile au pôle nord. L'étoile polaire se situerait juste au-dessus de notre tête, à la verticale, à 90 degrés au-dessus de l'horizon. Si nous étions exactement à l'équateur, la polaire serait à 0 degré, juste à l'horizon. La latitude, c'est la hauteur de la polaire. Ici, à Bordeaux, la polaire est à 45 degrés au-dessus de l'horizon, et nous sommes donc à 45 degrés de latitude nord. Au passage, je signale que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Montréal qui est à cette latitude, exactement sur le même parallèle. Pourtant, le climat n'est pas du tout le même, car il ne dépend pas que de la latitude. C'est l'existence du Gulf Stream, le courant marin apportant l'eau chaude du Golfe du Mexique, d'où son nom, vers la côte ouest européenne, qui fait toute la différence. Pour le moment, car avec le réchauffement climatique, susceptible de perturber les délicats équilibres dans les courants marins, en provoquant la fonte des glaciers du Groenland, nous pourrions voir s'arrêter cet échange thermique bénéfique et voir un jour à Bordeaux les mêmes hivers qu'au Québec, avec la Garonne couverte de glace comme le Saint-Laurent. Mais revenons à la latitude qui serait donc très simple à mesurer avec la hauteur de l'étoile polaire, sauf qu'elle n'est pas visible dans l'hémisphère sud. On peut le faire avec d'autres étoiles dont les éphémérides vont donner la position dans le ciel, puisque contrairement à celle de la polaire, elle varie en fonction de la date et de l'heure. On peut même le faire avec la Lune ou le Soleil. Et pour mesurer la hauteur d'un astre sur l'horizon, les marins utilisent un sextant, un instrument optique muni d'un petit miroir permettant de faire coïncider l'astre observé avec l'horizon pour lire l'angle sur ses graduations. Comme on le voit, avant l'invention des systèmes plus modernes avec les communications radio, les radars et même le GPS, la navigation marine ou aérienne avait beaucoup à voir avec l'astronomie. C'est étonnant, mais j'ai pu voir au musée de l'air et de l'espace, au Bourget, que les Boeing 747, qui ont démocratisé le vol aérien dans les années 1970, possède une sorte de fenêtre de toit qui permet à l'équipage de se repérer grâce au ciel en cas de défaillance des systèmes électroniques de navigation. Depuis l'Antiquité, les marins, mais aussi les voyageurs du désert, ont utilisé la polaire pour repérer le nord et les étoiles et constellations pour les guider.
Alors comment la vision du ciel change-t-elle avec la latitude ?
Comme je viens de l'expliquer avec la polaire, c'est une sorte de basculement général du ciel qui s'opère quand on change de latitude. Au pôle nord, elle est à la verticale, à l'équateur, elle est à l'horizon, alors qu'à Bordeaux, elle est juste à mi-hauteur à 45 degrés de l'horizon nord. Et c'est toute la voûte céleste et ses constellations qui basculent avec elle. Si je prends la constellation vedette du ciel de l'hiver, Orion, j'ai l'habitude en Dordogne de la voir au sud, en début de nuit en ce moment, à une hauteur équivalente à celle de la polaire, 45 degrés, mais du côté de l'horizon sud. Si je descends à des latitudes plus au sud, je la verrai de plus en plus haut dans le ciel. La semaine dernière, en Guadeloupe, j'ai été surpris de la voir en début de nuit pratiquement au zénith, c'est-à-dire au-dessus de ma tête. Et j'ai même pu la photographier en couchant mon appareil photo sur une boîte aux lettres pour viser verticalement. C'est logique car la Guadeloupe est située vers 16 degrés de latitude nord, donc environ 30 degrés plus au sud que Bordeaux. Et je voyais donc Orion 30 degrés plus haut dans le ciel, soit dans les 75 degrés, ce qui est très très haut, assez proche du zénith. Et comme le remarquait Aristote, ce basculement du ciel découvre vers le sud de nouvelles étoiles et constellations que je ne peux pas voir habituellement, comme par exemple la Carène ou le Grand Nuage de Magellan, une petite galaxie satellite de notre Voie lactée qui fait, avec le petit nuage de Magellan, la beauté du ciel de l'hémisphère sud. Malheureusement, la Guadeloupe n'est pas encore assez au sud et il est tout juste au-dessus de l'horizon en début de nuit, donc dans de très mauvaises conditions pour pouvoir l'observer. Notre Voie lactée aussi est plus impressionnante au sud, car son centre, le plus riche en étoiles et donc le plus lumineux dans le ciel, est à peine au-dessus de l'horizon sud dans notre ciel en été, entre le Sagittaire et le Scorpion. Mais quand on va plus au sud, il s'élève dans le ciel et on peut admirer le bulbe de notre galaxie bien plus majestueux quand il est plus haut. Malheureusement, ce n'était pas la bonne saison pour le faire lors de mon voyage en Guadeloupe en fin février, période choisie pour des considérations familiales et touristiques, mais pas astronomiques, car comme en métropole, le centre de la Voie lactée ne se révèle pas en hiver, mais en été. En ce moment, à l'aube, un peu avant 6h du matin, il arrive tout juste à l'horizon en Guadeloupe, passera dans le ciel pendant la journée, sera déjà couché avant la nuit qui arrive vers 18h.
Alors, ces horaires ne sont pas les mêmes qu'ici, mais c'est aussi en effet la latitude alors ?
Effectivement, le comportement du soleil au fil des saisons est aussi très différent selon la latitude. Si on projette l'équateur de la Terre dans le ciel, cela forme un grand cercle sur la voûte céleste qu'on appelle équateur céleste. C'est par rapport à lui qu'on repère aussi la position des astres dans le ciel, avec un système analogue aux longitudes et latitudes qu'on appelle respectivement ascension droite et déclinaison. Depuis Copernic, on sait que c'est la Terre qui orbite autour du Soleil, mais du point de vue de la Terre, on voit le Soleil décrire en un an un grand cercle autour de nous dans le ciel, son orbite apparente qu'on appelle écliptique, tout simplement parce que c'est le long de cette ligne que se produisent les éclipses de Soleil. Ce serait bien plus simple pour les astronomes si l'écliptique se confondrait avec l'équateur, mais ce n'est malheureusement pas le cas. En effet, l'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire à l'écliptique, mais notre planète est inclinée d'environ 23,5 degrés par rapport à cette direction. Ce qui fait que dans le ciel, l'écliptique est inclinée à 23,5 degrés par rapport à l'équateur céleste, qu'il coupe en deux points qu'on nomme points vernaux. Quand le Soleil se trouve à l'une de ces deux positions de son orbite apparente, c'est l'équinoxe. De printemps ou d'automne, le Soleil se lève exactement à l'est, se couche exactement à l'ouest et reste exactement 12 heures dans le ciel. Quand il atteint le point le plus haut, au nord, au-dessus de l'équateur céleste, c'est le solstice d'été, la journée où il monte le plus haut dans le ciel et qui est la plus longue dans l'hémisphère nord. Et à l'inverse, quand il atteint la position la plus au sud sous l'équateur, c'est le solstice d'hiver, la journée la plus courte de l'année où il monte le moins haut. Si on fait le calcul pour Bordeaux, à 45 degrés de latitude nord, l'équateur monte dans le ciel au sud à 45 degrés. Au solstice d'été, le soleil monte à midi à 45 degrés plus les 23,5 degrés d'inclinaison de l'écliptique, donc presque 70 degrés, et son trajet dans le ciel dure très longtemps, dans les 15h30, entre son lever vers 6h15 et son coucher vers 21h45. Alors qu'au solstice d'hiver, il reste visible moins de 9h, entre son lever vers 8h30 et son coucher vers 17h20. On voit donc qu'à nos latitudes, il y a une très grande amplitude de la durée de la journée entre été et hiver, avec des horaires de lever et de coucher de soleil très variables. Mais quand on se rapproche de l'équateur, dans les zones tropicales, ces différences deviennent beaucoup moins sensibles. En Guadeloupe, à 16 degrés de latitude nord, l'équateur monte à 74 degrés dans le ciel. Si on ajoute ou retranche les 23,5 degrés de l'inclinaison de l'écliptique, la hauteur du soleil varie environ entre 50 degrés au solstice d'hiver et 83 au solstice d'été. Une différence moins notable, car il est en fait toujours très haut dans le ciel. Et par conséquent, la durée de la journée varie beaucoup moins dans l'année, toujours assez proche de 12 heures, grosso modo entre 11 heures et 13 heures, avec un lever entre 5h30 et 6h30 en hiver. En été, 5h30 en été, 6h30 en hiver, idem pour le coucher qui varie d'environ 1 heure autour de 18h15. Bien entendu, c'est l'inverse quand on va aux latitudes nordiques, puisque l'amplitude de la journée est bien plus grande, avec au-delà du cercle polaire, comme par exemple au nord de la Norvège, des journées qui ne finissent pas en été, car le soleil ne se couche pas, le fameux soleil de minuit, alors qu'il ne se lève pas quelques jours en hiver.
Et dans les tropiques, alors justement Michel, la nuit tombe très vite aussi.
Alors c'est toujours l'effet de la latitude. Quelle que soit la position du soleil sur l'écliptique, sa trajectoire dans le ciel en une journée est un arc de cercle parallèle à l'équateur céleste, puisque c'est en réalité la rotation de la Terre qui produit ce mouvement apparent. Donc le soleil se lève et se couche en suivant une pente égale à l'inclinaison de l'équateur céleste dans le ciel. Et cela influe grandement sur la durée de l'aube et du crépuscule, ces moments qui précèdent le lever ou suivent le coucher, donc sans soleil visible, mais pendant lesquels le ciel n'est plus ou pas encore noir, comme pendant la nuit. On peut considérer qu'il fait nuit à partir du moment où le soleil est descendu à 12 degrés sous l'horizon. Mais le temps qu'il met à parcourir le trajet entre cette position et l'horizon, donc son lever ou son coucher, varie grandement en fonction de l'angle sous lequel il effectue le trajet, donc selon la latitude. Ici, à 45 degrés nord, il met en moyenne environ une heure, durée de l'aube et du crépuscule, où le ciel est plus ou moins bleuté et orangé. En Guadeloupe, à 16 degrés de latitude, c'est beaucoup moins, une grosse demi-heure, car le soleil se lève ou tombe beaucoup plus verticalement, et les couchers du soleil, et les Européens sont souvent surpris de l'arrivée de la nuit si vite après le coucher du soleil. Bien entendu, c'est l'inverse dans les régions nordiques, avec des aubes et des crépuscules interminables. Sans aller jusqu'au soleil de minuit, il n'y a plus du tout de nuit. Au niveau du cercle polaire, vers la fin mars, le crépuscule dure 2h30. Idem pour l'aube, et la nuit est donc déjà très courte. C'est pour cela que la période d'observation des aurores, nécessitant la nuit noire, est assez restreinte, en gros, de septembre à mars. Cette descente beaucoup plus verticale du soleil, c'est aussi la même chose pour la lune. Et comme elle était en croissant quand j'étais en Guadeloupe, c'est assez bizarre de voir que quand elle se couche, elle est pratiquement couchée sur l'horizon, faisant comme deux cornes, alors qu'ici on la voit se coucher en biais, si on peut dire. Comme on vient de le voir, et en résumé, quand on change de longitude, par exemple de l'Europe vers le nord de l'Amérique ou de la Chine, cela ne change pratiquement rien à part l'heure. Alors que quand on change de latitude, cela change tout. Le climat, les saisons, la durée du jour et de la nuit, la vision du ciel, de ses étoiles et de ses constellations.
Allez, toujours avec Michel Favret, c'est sa 96e chronique astro sur l'antenne Nodo Radio. Et là, on va tout de suite retrouver, enfin Michel va vous présenter la troisième et dernière partie de sa chronique et nous parler du ciel du mois.
Alors comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org. Pour voir les cartes du ciel correspondantes, on ne peut pas montrer de cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour mars, aujourd'hui ou demain. En mars, nous approchons de la fin officielle de l'hiver avec l'équinoxe de printemps, le 20 mars cette année, jour où le soleil est visible exactement 12 heures dans le ciel, où il se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest. À cette date, la nuit a déjà bien régressé, puisqu'en comptant environ une heure pour l'aube et le crépuscule, elle ne dure plus que 10 heures. Elle commence donc plus tard, avec en ce moment le soleil qui se couche vers 19h et la nuit noire qui survient presque à 20h. Mais ce sera bien plus tard à la fin du mois, puisque nous serons repassés à l'heure d'été, dans la nuit du 25 au 26, repoussant le coucher du soleil à presque 20h30, le 31, et la nuit vers 21h30. En cette fin d'hiver, les constellations de la saison occupent la plus grande partie du ciel en début de nuit, avec en ce moment Orion plein sud, le chasseur, bien identifiable à trois étoiles parfaitement alignées qui dessinent sa ceinture, et deux groupes de deux étoiles plus écartées au-dessus et en dessous formant un peu le motif d'un papillon. En réalité, ce sont ses épaules et ses pieds. Bien qu'elles soient un peu brouillées par la présence de Mars, on peut repérer autour d'Orion la figure du grand G de l'hiver, formé par les étoiles les plus brillantes, permettant de situer facilement les principales autres constellations de la saison. Aldébaran du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien, l'étoile la plus brillante du ciel, et enfin Rigel, pied gauche d'Orion, puis Bellatrix et Bételgeuse, ses épaules formant la barre du G. Les constellations du printemps apparaissent progressivement à l'est, notamment le Lion bien reconnaissable, déjà levé en début de nuit, suivi plus tard par la Vierge. Fin mars, la situation aura bien évolué, avant qu'en début de nuit le ciel partagé en deux, avec les constellations de l'hiver côté ouest, Orion étant déjà à demi basculé vers l'ouest pour se coucher, et les constellations du printemps occupant la moitié est. Côté planète, on ne peut pas rater le phare très brillant de Vénus vers l'ouest, qui sera de plus en plus haute dans le ciel du soir au fil des jours. En ce moment, elle se couche à peu près vers 21h30, mais ce sera presque minuit, heure d'été, à la fin du mois. Un peu plus bas vers l'ouest, Jupiter, deuxième planète la plus brillante, qu'il faut se dépêcher d'observer encore un peu, tôt dans la nuit et dans le mois, car si elle se couche déjà vers 21h en ce moment, elle ne sera rapidement plus observable que dans les lueurs du crépuscule. Comme Mercure, qui réapparaîtra dans le ciel du soir en fin de mois. Mars est toujours haute dans le ciel en début de nuit, mais de moins en moins lumineuse au fur et à mesure que nous nous éloignons d'elle. Elle a encore l'éclat d'une étoile brillante, comme celle qui dessine les constellations, et se reconnaît à sa teinte orangée. Comme chaque mois, la Lune s'approchera des planètes visibles dans une série de conjonctions. Le mercredi 22, dans les lueurs du crépuscule et très bas à l'ouest, on pourra essayer de repérer un très très fin croissant juste sous Jupiter. Le surlendemain, vendredi 24, un fin croissant se rapproche de la brillante Vénus, environ la largeur de deux doigts bras tendus. Et enfin, le mardi 28, c'est presque le premier quartier qui sera près de Mars. Et notre prochaine chronique devrait être le mercredi 5 avril.
Voilà, merci beaucoup Michel. Là, on va pas trop pouvoir échanger parce que là, sur le timing, en tout cas, merci pour toujours ce fabuleux travail. Hein. On sait que vous êtes passionné, impliqué. On va juste rappeler, oui, je cherchais constellationsdesgalaxies.org. Sur le site, vous avez toutes les chroniques de Michel.